VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 en universel. Nous sommes vendredi 16 mars 2018 au sommaire. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat d'armement. La page Mugabe est tournée selon le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa après les propos de l'ancien chef de l'État qui se dit victime d'un coup d'État. Des officiels de plusieurs pays africains et européens réunis au Niger pour discuter de la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants vers l'Europe. En République démocratique du Congo, une messe en la mémoire des victimes de la marche du 25 février.
Eric et Roussi ont donné leur vie pour ce pays. Leur sang est versé pour la démocratie.
La Russie promet de réagir après l'annonce des sanctions américaines pour ingérence dans la présidentielle de 2016. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Afrique du Sud, le parquet général a annoncé la relance attendue des poursuites contre l'ancien président du pays, Jacob Zuma, dans une vieille affaire de corruption concernant un contrat d'armement avec des industriels étrangers. Une affaire qui remonte aux années 90, Clermont-Gibourg.
Seulement un mois après la démission de Jacob Zuma, la justice sud-africaine a statué aujourd'hui. Le procureur général du pays, Sean Abrahams, a déclaré qu'après examen de l'affaire, un procès semble la voie la plus adéquate pour régler cette affaire. M. Abrahams a précisé qu'il avait notifié les charges à M. Zuma, qui a nié toutes les accusations portées contre lui. Accusé de corruption et de fraude, Jacob Zuma est soupçonné d'avoir accepté des pots de vin, notamment de la société française Thales, en marge d'un contrat de plus de 4 milliards d'euros signé en 1999. Le nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. C'est lui qui a succédé à Jacob Zuma à la tête du pays.
Au Burundi, au moins 9 ouvriers ont été tués aujourd'hui dans un éboulement de terrain à l'est de Bujumbura, alors qu'ils travaillaient sur le chantier d'aménagement d'une rivière. Cet incident est intervenu à quelques mètres du palais présidentiel. Christophe Kourounziza.
Ce vendredi matin, un effondrement de terre a causé la mort de 6 ouvriers qui faisaient les travaux d'aménagement de la rivière de Gasigny, située en commune de Mutimbuzi dans la province de Bujumbura Oral, en bas de la route nationale numéro 1. 3 autres ouvriers ont été blessés, selon le porte-parole de la police. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Jean-Bosco Nzouani Mahanag, a promis que l'assurance va travailler avec l'entreprise et les familles pour l'indemnisation des victimes. Les blessés ont été conduits à l'hôpital et la couverture des soins de santé sera assurée par le gouvernement. Le ministre Nzouani Mahanag a également interpellé l'administration à la base de planter d'autres arbustes pour éviter de tels glissements de terrain. En 2014, un autre éboulement de terrain avait causé la mort de dizaines de personnes non loin de l'endroit où est survenu le drame. Cet éboulement de terrain meurtrier est intervenu non loin de l'endroit où est érigé le palais présidentiel. Signalons par ailleurs qu'un autre incident est intervenu dans le quartier de Buterere au nord de Bujumbura, où un chantier d'une maison en étage s'est écroulé, faisant 2 morts et 1 blessé. Mais le nombre de personnes enfouies dans les décombres reste pour le moment inconnu. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Toujours au Burundi, quelques 740 détenus, dont une majorité de prisonniers politiques, ont été libérés ce vendredi en vertu d'une grâce présidentielle accordée lors des vœux de fin d'année 2017. Les détenus ont été libérés au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de la Justice, en présence notamment de plusieurs ambassadeurs occidentaux. Réunion aujourd'hui à Niamey de ministres de l'Union européenne et de plusieurs pays africains qui tentent de trouver des moyens plus efficaces de lutte contre les trafiquants de migrants. Le point avec Blanche Sanou.
Côté européen, la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sont pour le renforcement des frontières. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères européens souhaitent notamment muscler des mesures contre les trafiquants. D'autre part, le Niger étant l'un des principaux pays de transit des migrants africains vers l'Europe, la réunion de Niamey vise à une réponse face aux passeurs. L'efficacité peut être significativement améliorée à travers une bonne coopération de sécurité au niveau national et régional entre les pays d'origine et de transit, a affirmé le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, à l'ouverture de la réunion. Quant au ministre français de l'Intérieur, Gérard Colombe, il plaide pour une action au plus près des pays d'origine et de transit des migrants, acteur clé de la lutte contre l'immigration irrégulière. Parmi les mesures envisagées figurent la formation des forces de police et de gendarmerie, l'aide au contrôle des frontières et la création de fichiers d'identité.
L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a promis de quitter la direction du parti au pouvoir dans un an ou plus tard. Une annonce faite sur fond de rumeurs sur des tensions avec le nouveau chef de l'État, João Lourenço. M. dos Santos a cédé les rênes du pays à son ancien ministre de la Défense, après la victoire de leur parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, aux élections générales d'août, mais il a conservé la présidence du MPLA. Plus de 57 000 personnes ont fui les conflits intercommunautaires, les violences interethniques et les abus sexuels en République démocratique du Congo pour se réfugier en Ouganda, c'est ce qu'a indiqué l'ONU ce vendredi. Selon un porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Bakar Baloche, depuis le début de l'année, au moins 1000 personnes par jour en moyenne fuient les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et arrivent en Ouganda. Plus des trois quarts sont des femmes et des enfants selon le HCR. L'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a dénoncé le comportement jugé scandaleux de la police malgache après avoir authentifié une vidéo montrant ses agents maltraiter des dizaines de civils dans un village en flammes. En février 2017, des policiers ont incendié 5 villages dans le nord en riposte à la mort de 2 des leurs, selon Amnesty International. Une hôtesse de la compagnie Emirates est morte après être tombée d'une sortie d'urgence d'un avion parqué sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. L'autorité de l'aviation civile ougandaise a déclaré dans un communiqué qu'une enquête avait été ouverte. L'avion d'Emirates, qui avait atterri donc sans problème, était garé à Entebbe. La compagnie a promis dans un communiqué de coopérer pleinement à l'enquête avec les autorités ougandaises.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Espagne, 10 policiers ont été blessés, 6 personnes arrêtées lors de heurts dans le centre de Madrid hier soir après le décès d'un vendeur à la sauvette sénégalais. Des protestataires ont jeté des pierres, des pavés et des bouteilles sur un camion de pompiers et les forces de l'ordre qui ont répliqué notamment en tirant des balles en caoutchouc. Au lendemain de l'annonce par l'administration Trump d'une série de sanctions contre des individus et des entités russes, Moscou annonce une réaction. Le point est avec Bagasikoura.
Moscou a promis de prendre à son tour des mesures de représailles sans spécifier lesquelles. Le ministère des Affaires étrangères estime que cette annonce est destinée à entacher le scrutin présidentiel russe prévu dimanche et dans lequel Vladimir Poutine est donné largement favori. Washington a ciblé 19 ressortissants russes en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques comme des attaques ciblant les réseaux électriques. Parmi les personnes visées par des sanctions figure un homme d'affaires proche du Kremlin. 5 entités sont également ciblées parmi lesquelles les services de renseignement intérieur et les services secrets de l'armée russe. Le Congrès américain s'est déjà prononcé pour des sanctions contre la Russie, mais le Trésor s'était jusqu'ici contenté de publié fin juin une liste de 200 responsables russes sans annoncer de mesures punitives. Plusieurs des personnes visées par les mesures annoncées hier jeudi ont été inculpées mi-février dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'interférence russe lors de la campagne aux États-Unis.
La Russie a annoncé avoir ouvert une enquête pour tentative d'assassinat de la fille de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, victime d'empoisonnement avec son père le 4 mars en Angleterre. Une enquête pour tentative d'assassinat de la citoyenne russe Ilya Skripal, perpétrée à Salisbury au Royaume-Uni, a été ouverte le 16 mars, a annoncé le comité d'enquête russe dans un communiqué. Londres a jugé la Russie responsable de cet empoisonnement et annoncé une série de sanctions contre Moscou, qui rejette fermement son implication. L'ONU a rendu public un rapport sur les sanctions contre la Corée du Nord. Selon le document, Pyongyang a exporté entre janvier et septembre 2017 des produits interdits lui générant des revenus estimés à près de 200 millions de dollars. Les conclusions des experts avaient été révélées début février par plusieurs agences de presse. Le rapport souligne la poursuite d'exportation de charbon nord-coréen en dépit des sanctions. Il évoque des pavillons de navires trompeurs, des transferts en mer de produits illicites entre navires et de la documentation frauduleuse destinée à masquer l'origine du charbon. La compagnie publique indienne Air India a annoncé qu'elle était autorisée à utiliser l'espace aérien saoudien pour des vols vers Tel Aviv, une mesure qui met fin à l'interdiction depuis des décennies par Riyad de son espace aérien pour des vols vers Israël. Les vols d'Air India vers Israël débuteront le 22 mars. Les vols prendront environ 7h05 et emprunteront l'espace aérien saoudien, a annoncé le porte-parole de la compagnie indienne. Riyad n'entretient pas de relations officielles avec Israël. La compagnie israélienne El Al survolant actuellement la mer Rouge pour ses destinations indiennes pour éviter les espaces aériens saoudiens et iraniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Eric Manerekiza.
Retour spectaculaire de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux. Abidjan a émis une euro-obligation de près de 2 milliards d'euros et réalise la plus grosse émission en Afrique. D'après l'agence Bloomberg, qui compile les données sur les émissions de titres de dette de 54 pays africains, cette opération représente le deuxième le plus important emprunt libellé en euros réalisé par un pays émergent depuis le début de cette année. La Côte d'Ivoire a choisi Citibank, Deutsche Bank, PNB Paribas et Société Générale pour arranger cette émission d'euro-obligation. Elle a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs. Le carnet de commandes a déjà dépassé les 4,7 milliards d'euros. L'Afrique orientale détient la meilleure performance économique en Afrique. D'après le rapport sur les perspectives économiques en Afrique de l'Est, la région a enregistré en 2017 une croissance moyenne de près de 6%. L'Éthiopie a porté son résultat avec plus de 8%. Ensuite, Djibouti, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya qui ont enregistré des croissances de plus de 5%. L'Ouganda, les Comores, les Seychelles, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan et le Burundi ont également contribué à cette performance dans une moindre mesure. Le Soudan du Sud reste le mauvais élève de la région. L'OCDE a constaté l'absence de consensus international sur la manière de taxer les géants du numérique. Les 110 pays qui se penchent sur l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices n'ont pas trouvé de compromis sur les mesures à appliquer à long ou court terme en attendant un accord mondial.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Juventus Real, le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Ah oui, c'est un classique entre deux géants de l'histoire du football qui cumulent à eux deux pas moins de 24 finales de la Ligue des Champions, dont 14 titres. Le club italien avait pris le meilleur en demi-finale en 2015 et la formation espagnole l'avait emporté, on s'en souvient, l'année dernière à Cardiff lors de la finale 4-1. L'autre quart de finale explosif se jouera en Angleterre. Liverpool et Manchester City qui sont portés vers l'avant. Le FC Barcelone devra négocier un match retour à l'extérieur dans le stade olympique de Rome face à l'AS Rome. Les Catalans sont évidemment favoris. Enfin, le Bayern Munich qui recevra au retour l'invité surprise de ses quarts, le FC Séville, même si les Allemands de Jupp Heynckes devront se méfier du tombeur de Manchester United.
Et en Europa League aussi, le tirage au sort des quarts de finale a été effectué.
Eric Abidal, préposé au tirage au sort, a été clément avec l'Atlético Madrid. Le prétendant au titre final affrontera le Sporting Portugal en quart de finale de l'Europa League, tandis qu'Arsenal défiera le CSKA Moscou dans un contexte de relations diplomatiques électriques entre l'Angleterre et la Russie. Les autres affiches de ces quarts de finale, Leipzig contre Marseille et la Lazio de Rome contre Salzbourg.
La Coupe CAF reprend ses droits dès ce soir.
Deux matchs avec le CS La Mancha qui, après sa victoire 3-0 à l'aller à Pointe-Noire, se déplace au Soudan sur la pelouse de Al Ahly Chandi. Le Petro Atlético de Luanda est en Afrique du Sud pour affronter le Supersport United et faire mieux qu'au match aller 0-0.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
James Harden a offert à Houston la victoire 101-96 face aux Clippers de Los Angeles, tandis que Portland, irrésistible, a donné une leçon à Cleveland, victoire 113-105. San Antonio a enchaîné une deuxième victoire en trois jours en battant la Nouvelle-Orléans, 98-93. Utah qui fait des étincelles et qui a battu Phoenix, 116-88.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, à l'appel du comité laïque de coordination, une messe a été célébrée ce vendredi à Kinshasa, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, en mémoire des victimes de la répression de la marche du 25 février dernier. Activistes des droits de l'homme, mouvements citoyens, acteurs politiques, famille des victimes, tous étaient présents pour rendre hommage à Rossi Mukendi et Eric Boloko. Un appel à la pérennisation de leur combat a été lancé. Reportage de Thierry Kambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Officiant du jour, l'abbé Vincent Tchomba, curé de la paroisse Saint-Joseph, a condamné la répression barbare qui a conduit à la mort de Rossi Mukendi à Kinshasa et Eric Boloko à Mbandaka le 25 février dernier. Leur péché a été de réclamer les préalables sûrs à des bonnes élections. L'espérance ne trompe pas et comme le disait l'une des victimes, le peuple gagne toujours, a-t-il souligné. Pour l'opposant Martin Fayoulou, présent lors de cette célébration, Eric Boloko et Rossi Mukendi méritent d'être appelés des martyrs de la démocratie.
C'est un hommage rendu à nos martyrs de la démocratie. Eric et Rossi ont donné leur vie pour ce pays. Leur sang est versé pour la démocratie. Et comme le prêtre l'a fait, il nous a relaté toutes les citations de Rossi. Et on voit que ce monsieur a donné sa vie pour ce Congo. Et donc, notre sentiment, c'est simplement de continuer le travail de Rossi. Rossi a dit que le peuple gagne toujours. Il faudrait que ce peuple gagne les combats contre M. Kabila.
Très visible et représentatif lors de cette messe également, les membres des mouvements citoyens qui ont salué la mémoire de l'un des leurs, Rossi Mukendi, atteint par balle le 25 février dernier à la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Lemba. Ils ont réclamé justice et promis de pérenniser son combat.
La mort de Rossi, c'est pas une mort ordinaire. Il est vraiment mort pour une cause noble. Et lorsque vous partez pour une cause noble, votre nom ne passe jamais inaperçu. Vous partez à un héros, comme le cas de notre frère Rossi.
En train de dire également que si lui il est tombé, il n'a fait que s'aimer une graine qui va porter. Et nous sommes là pour récolter ce que notre ami Rossi a semé.
Nous sommes déterminés à savoir la vérité sur ce qui est arrivé à Rossi. Les images existent, les témoignages existent. L'autopsie a été effectuée et nous cherchons que les coupables et les coupables au pluriel soient sanctionnés. Pas seulement celui qui a tiré, celui qui a donné l'ordre de tirer et c'est lui qui a permis que dans une manifestation publique, on puisse utiliser des balles réelles alors même qu'on avait dit zéro mort, zéro répression. Donc c'est tout ce monde qui finiront par être sanctionnés.
Présente également le père de l'activiste Rossi Mukendi qui a demandé qu'on lui rende la dépouille de son fils afin qu'il organise des obsèques et puisse l'enterrer dignement.
Le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Dans la province de Bubanza, dans le nord-ouest du Burundi, l'épidémie de sida a été en net recul depuis 2013. mais les malades ne prennent plus les médicaments appropriés, notamment beaucoup de femmes séropositives souffrant de famine. Certaines femmes séropositives ont repris la prostitution pour subvenir à leurs besoins. En 2016, quelque 84 000 personnes vivaient avec le VIH au Burundi, dont 61% sont sous antirétroviraux. Reportage de Christophe Kourounziza.
Marie Irakoze est séropositive. À 25 ans, cette femme a perdu son enfant séropositif l'année dernière. Son mari est aujourd'hui en prison. Alors qu'elle prenait des médicaments depuis 7 ans, elle a arrêté de les prendre. Pour lier les deux bouts de la journée, elle affirme qu'elle a été obligée de reprendre la prostitution pour avoir de quoi manger et payer le loyer de sa maison. Irakoze raconte son calvaire à VOA Afrique.
Mon mari vient de passer 2 ans en prison. Je n'ai rien à manger et je n'ai pas ma propre maison. Je m'en donne alors à vendre mon corps moyennant argent. Je n'ai même pas de champ pour cultiver. Personne ne me vient en aide pour la nourriture et pour payer mon loyer.
Même si cette dame est séropositive, il arrive à ses clients de refuser de se protéger, augmentant ainsi le risque de transmission.
Il arrive que je couche avec des hommes qui ne veulent pas se protéger. Ainsi, cet homme peut transmettre le sida à une autre femme. Et ça devient un cercle vicieux. Ça arrive qu'un client vous certifie que vous n'êtes pas malade, alors je lui ai dit que je suis séropositive.
La question de savoir pourquoi elle ne prend plus les médicaments, Marie Irakoze s'explique.
Comment prendre les médicaments alors que je n'ai rien à manger? Ça fait 5 mois que je ne prends pas de médicaments parce que je peux passer même 2 jours sans manger. Mais quand j'ai un client, je peux avoir 3, 4, 5 000 francs burundais et avoir ainsi ma ration quotidienne.
Cette autre femme de la même circonscription affirme qu'elle va bientôt abandonner les médicaments à cause de la faim.
Si on prend les médicaments et que l'on a le vertige et que tu as mal, tu fais quoi? Tu choisis d'abandonner de prendre les médicaments car ta faim est déjà proche.
Des témoignages qui montrent que si les malades ne reçoivent plus de nourriture, leur nombre peut augmenter, comme l'affirme Kassilde Atungimana, responsable du réseau burundais des personnes vivant avec les VIH-SIDA en province de Bubanza.
On sillonnait toutes les collines de la province avant pour expliquer le bien fondé des médicaments. Pour avoir les chiffres actualisés, aujourd'hui c'est impossible car on ne peut pas aller sur les collines à pied car nous n'avons plus de financement.
Le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, Dr Désiré Nduimana, indique que d'ici 2030, l'objectif de vivre sans aucun malade de sida au Burundi sera atteint.
Il y a l'objectif 90-90-90 qui arrive jusqu'en 2020. Cet objectif vise à ce que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique et 90% qui ont été dépistés positifs soient mises sous traitement. Et parmi eux, 90% des personnes qui sont sous traitement aient une charge virale indétectable.
Depuis 2010, au Burundi, de nouvelles infections du VIH ont diminué de 54%, tandis que le nombre de personnes mortes de sida a diminué de 49%. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
South by Southwest, un marché aux idées spontanées, bat son plein à Austin, au Texas. C'est à la fois un festival de musique et de cinéma et une conférence sur la technologie. Les festivaliers viennent du monde entier, y compris de l'Afrique, comme le rapporte Tigist Djemé de la VOA Corne de l'Afrique dans ce récit d'Arzuma Compaoré.
Des entrepreneurs africains présents au festival South by Southwest parlent passionnément de l'utilisation de la technologie pour résoudre des problèmes. Tayo Oviuzu, qui a passé 14 ans aux États-Unis, a lancé le service bancaire mobile Paga peu après son retour dans son pays natal, le Nigeria.
Cette idée m'est venue de ma propre frustration en ce qui concerne l'utilisation du cash au Nigeria. En 2008, je suis revenu des États-Unis et j'étais client de 2 banques, mais les points de service ne fonctionnaient pas, les distributeurs automatiques de billets non plus. J'ai réalisé que j'avais toujours besoin de transporter de l'argent avec moi. et je n'aime pas transporter du cash.
Il s'est rendu compte que son service de téléphonie mobile était plus fiable que les guichets automatiques.
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le téléphone comme une pièce centrale de transactions financières? Et c'est comme ça que j'ai commencé.
C'était en 2009. Aujourd'hui, Paga est la plus grande société de services bancaires mobiles et de services financiers du Nigeria, avec 8 millions d'utilisateurs et plus de 14 000 agents pour gérer les transferts. Oviozu a participé à un panel sur la fintech, sur l'utilisation de la technologie pour améliorer les services financiers. Omobola Johnson, associé principal de TLCom Capital, société de capital risque investissant dans des startups, était une autre panéliste. Selon elle, la technologie est en plein essor en Afrique et cela affecte tout, de la finance à l'éducation à la nourriture.
Les derniers chiffres montrent qu'environ 600 milliards de dollars ont été investis dans des sociétés technologiques en Afrique en 2017. Ce chiffre a de façon consistante augmenté de 50% chaque année.
Johnson s'y connaît en technologie. Il y a quelques années, en tant que ministre nigériane des technologies et de la communication, elle a contribué à la mise en place d'un plan national pour le haut débit afin de soutenir l'industrie technologique du pays. Pour Omobola Johnson, c'est le financement et non la connectivité Internet qui est le plus grand obstacle à la croissance dans le secteur de la technologie en Afrique.
Salut les amis, c'est Roger Muntou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Sim Soloumami qui l'a mise en onde, à la console Cornelius Tenor, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Il y a de cela 30 ans, le 16 mars 1988, juste avant le début de l'opération Al Anfal, le régime du président irakien d'alors, Saddam Hussein, commettait l'une des pires atrocités de l'ère moderne, le massacre par gazage des milliers de civils dans la ville kurde irakienne d'Al-Abja. Dans le cadre d'une campagne génocidaire contre les Kurdes et d'autres groupes ethniques du nord de l'Irak, les forces gouvernementales ont pilonné cette localité pendant 2 jours à coups de roquettes et de napalm, un gel incendiaire qui adhère à la peau et cause des terribles brûlures. Au second jour, le 16 mars, elles ont brusquement changé les tactiques. Des avions d'attaque ont largué sur la ville des canettes d'armes chimiques, y compris du gaz moutarde, les agents énervants comme le sarin, le tabac et le VX. Ce jour-là, 3500 à 5000 personnes ont péri en quelques minutes. Quelques 7000 à 10 000 autres ont été blessés, handicapés ou ont souffert de problèmes de santé à long terme. Bien que des preuves existent que les troupes de Saddam Hussein avaient utilisé des armes chimiques avant mars 1988, l'attaque de l'Abja est le premier assaut documenté des forces de Saddam Hussein utilisant de telles armes. Début 1987, Saddam Hussein a autorisé l'utilisation d'armes chimiques dans des attaques contre 24 villages kurdes. Pour son rôle dans ces haineuses attaques, le cousin du dictateur et commandant de l'opération, Ali Hassan al-Majid, a reçu le surnom d'Ali le chimiste. La campagne d'Al-Anfal était une série d'horribles crimes perpétrés par les leaders irakiens contre leur propre population. Le gazage d'Al des citoyens d'Al-Habja était l'une des pires atrocités commises par Saddam Hussein contre son propre peuple. Ali le chimiste a été exécuté par pendaison. Le tribunal spécial irakien a abandonné les chefs d'accusation retenus contre Saddam Hussein lui-même uniquement parce qu'il avait été condamné et exécuté en rapport avec une autre affaire. Le chef d'un gouvernement a la responsabilité d'agir dans le sens des intérêts de son pays et de son peuple. En fin de compte, peu des dictateurs sont morts dans leur lit ou ont gracieusement quitté le théâtre de leurs crimes. Le sort des investigateurs d'Al-Anfal, qui ont tué des milliers d'innocents, doit servir d'avertissement à tous ceux qui suivent leur pas meurtrier.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à...